Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Que fait Juliette dans son bain? Les amateurs éclairés de peinture, autant dire les auditeurs de France Inter, bien sûr, connaissent la réponse. Mais je la donne quand même pour les plus distraits. Elle pose pour deux grands peintres, Gauguin et Munch. Information importante et pas seulement pour les candidats de Question pour un champion, puisqu'elle sert à présenter leur richissime propriétaire et mécène, interprété avec le brio habituel par André Dussolier dans ce téléfilm d'Arte, baptisé lui aussi Juliette dans son bain. Je ne sais pas ce qu'elles ont toutes ces Juliettes à vouloir prendre des bains. C'est pas bien sûr ce que cherche à savoir ce thriller où il est plutôt question d'un homme qui se retrouve dans de sales draps et littéralement dans le bain. Mais aventure qui ne risque pas d'arriver à André Dussolier, acteur irréprochable dont les performances se suivent et ne se ressemblent pas, à un de ces rares acteurs qui peuvent justifier à eux seuls l'envie ou non d'aller voir un film s'il s'y trouve au générique. Et voilà un compliment suffisamment rare pour qu'on ne rate pas l'occasion qui nous est donnée de le faire à l'intéressé. Pop, 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 c'est parti.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Gaulle.
Bonjour André Dussolier.
Bonjour Antoine.
Bienvenue dans Pop, pop, pop. Oh, André Dussolier, vous venez donc aujourd'hui.
Impressionné, hein, pop, pop, pop. Bah, c'est pour moi, c'est une promotion. Hein,
c'est un moment important de,
un moment important de ma vie.
De votre carrière, peut-être.
Mmh. Une carrière, oui. J'ai l'impression tout d'un coup que là, je suis dans un monde auquel je n'avais pas tellement accès. Moi, j'étais plutôt sur... période un peu ancienne, classique.
Avant
pop, pop, c'est né pour moi avec les Beatles, donc oui, c'est quand même un peu loin. Donc pop, 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 aujourd'hui, c'est quoi? C'est la culture populaire qui a pris la place de la culture élitiste, on va dire.
Oui.
Ça, c'est la définition classique. Non?
Ben oui, mais si vous répondez aux questions avant que je les pose... Et puis les Beatles, c'est pas si vieux que ça, André.
Hein?
C'est les Beatles, c'est pas si vieux.
Ah oui, c'est éternel, les Beatles.
Non, mais alors là, on est en plein dans la pop culture avec les Beatles. Mais cette voix que j'entends là, me rappelle une voix, la voix d'un méchant, non? Non, la voix d'un personnage dans Batman, Autopsy.
Non, mais ce métier est complètement fou quand même, parce que jamais j'aurais pensé, oui, j'ai fait, en effet, j'ai enregistré, il n'y a pas si longtemps que ça, le Dr. Hunter dans Batman. C'est une série que les Américains ont écrite et qui est en podcast. C'est que les jeunes, dégustent, consomment, enfin, voient, écoutent, entendent. J'allais dire voient, bah oui, parce que c'est tellement imagé la manière dont ça se passe, comme ça, le sonore, c'est ce que disait Orson Welles. Il disait que la radio a ceci de supérieur au cinéma, c'est qu'à la radio, l'écran est plus large.
Ouais.
Moi, j'ai toujours aimé la radio, donc là, en effet, je suis content de voir que la jeune génération se repaît de radio et de podcast.
Et bien, vous êtes le docteur Hunter dans Batman Autopsy, un podcast qui cartonne d'ailleurs littéralement en ce moment même. Mon cher André, avant de vous accabler davantage de compliments, j'ai envie de vous offrir un petit répit en musique. C'est un morceau que j'aime bien sûr, puisqu'aujourd'hui je ne suis qu'amour. C'est Ondara et le morceau c'est Lebanon. Écoutez-moi ça.
Thank you. till your colors wither, then there'll be no man. In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Oh, Lebanon, life is brief, don't see the long. In your constant fear, open up. I shan't be like Canada. Oh, Lebanon, oh, Lebanon. Life is brief, don't see long. In your constant fear, open up. I shan't be like Canada.
Ondara, Lebanon, c'est le nom du titre, une chanson que j'écoute en boucle depuis quelques jours, merci Emma. Nous recevons André Dusselier pour parler d'une intrigante fiction, Juliette dans son bain de Jean-Paul Lilienfeld sur Arte. On va en parler longuement avec Charline qui nous rejoindra dans quelques minutes, mais elle partagera également avec nous quelques moments de son interview exclusive avec Noah Schnapp, l'une des jeunes stars de la série culte Stranger Things, dont la quatrième saison arrive ce vendredi sur Netflix. Alors mon cher André, revenons un peu en arrière, faisons un petit voyage dans le temps. Vous fûtes élève au conservatoire et brièvement pensionnaire de la Comédie Française. En cette année du quadricentenaire de Molière, on se rend compte, et pas seulement avec l'excellent Bourgeois Gentilhomme monté par Christian Eck et Valérie Le Sor à la Comédie Française, à quel point cette pop culture ne demande qu'à s'inviter dans les textes les plus classiques. Est-ce que vous pourriez tenter vous-même par ce genre d'aventure?
Mais je l'ai fait déjà. Quand je suis rentré au Français, justement, c'était en 72, hein, et j'avais joué dans les Fourberies de Scapin, et un des jeunes premiers, et il y avait déjà, ça se passait dans un cirque, donc il y a vraiment une manière d'adapter Molière à toutes les sauces, ouais. J'allais dire, vulgairement, mais voilà, on sent que c'est un auteur qui sera toujours excitant pour les metteurs en scène, et ça m'est arrivé, on était en cow-boy, donc on avait un chapeau, etc., et c'était vraiment une façon de revisiter les Fourberies de Scapin que évidemment tous les abonnés de la Comédie Française connaissent par cœur. Donc là, il fallait bien leur présenter autre chose. C'est ce qui s'était attaché à faire le metteur en scène.
Ça pourrait vous retenter ça aujourd'hui?
Oui, pourquoi pas. Mais en fait, on est plutôt quelquefois dans la sobriété. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Molière, on le jouera avec les costumes et nos chemises et nos jeans. Ouais. Mais ça marche toujours. J'ai vu encore, oui, il n'y a pas si longtemps que ça, y compris fait par des metteurs en scène ou mis en scène par Peter Stein, par exemple, mais dans des conditions très modernes, alors qu'il avait lui était partisan plutôt des choses classiques. Ouais. Ces œuvres-là sont éternelles. Mais c'est vrai qu'il y a sûrement de quoi faire et de quoi voir en ce moment avec Molière.
Allez voir ce fameux Bourgeois Gentilhomme.
Ouais.
Vous allez être littéralement scotché. Je vous promets.
Oui. Bah lui, j'ai joué avec lui récemment, ouais. C'est formidable.
Vous avez vous-même reçu Molière en 2015 pour votre adaptation du Novecento de Alessandro Baricco, entre autres distinctions, parce qu'on compte les Césars et autres médailles. Est-ce que toutes ces récompenses, ça vous flatte, ça vous embarrasse? Comment votre modestie légendaire y résiste-t-elle?
Non, je sais que c'est une récompense d'un jour, comme notre métier, c'est vraiment c'est une aventure perpétuelle, de jour en jour les choses changent, on peut passer du sommet jusqu'au la plus profonde dépression, donc et dans l'attente et dans l'espoir d'avoir le rôle ou d'avoir l'occasion d'avoir une belle chose à défendre. Donc non, c'est le plaisir du moment. Alors, le Molière, c'est quand même, ça a quelque chose d'un peu particulier parce que c'est toute la famille qui est très grande. Il y a les subventionnés, les privés. Et donc, on est élu par toutes ces personnes-là qui voient plein de spectacles. La concurrence est rude. Et donc, du coup, je sais pas, le théâtre, ça a quelque chose de rare, d'exceptionnel, qui survit d'ailleurs à tout. Aux crises du Covid et tout. Il est toujours là, le spectacle vivant. Donc, c'est vrai que c'est une émotion particulière et assez grande.
Alors, rapide survol de votre luxuriante, si je puis dire, carrière, c'est en 1972 que la France vous a découvert avec ceci.
Non mais, écoutez-moi, monsieur Golden, Je dis que Camille doit apprendre à avoir des rapports réels avec des personnes réelles dans une situation réelle. J'ai pas dû m'exprimer assez clairement.
Prenez votre temps, professeur. Faut pas que je vous embête. Relaxez-vous, soyez cool. Si elle est libérée, je montrerai le chemin à Camille, elle sera peinarde. Vous voulez me dire ce qui va pas là-dedans? Montrez-moi le trou et je vous le bouge.
Monsieur Golden.
Écoutez, je connais tous les trucs que vous racontez, mais dans la vie, ça marche pas comme ça. Vous en pincez pour Camille et vous figurez que si elle vient avec moi, ça sera classé pour vous et que vous aurez plus votre chance, c'est bien ça?
Mais pas du tout. Camille, pour moi, est simplement le sujet d'une étude. Mon intérêt pour elle est purement intellectuel.
André Dusselier, c'est dans dingue. Une belle fille comme moi de François Truffaut en 72. Pourquoi c'est dingue?
Parce que c'est la voix qui change énormément. Ah oui. Moi, je me reprochais d'avoir une voix un peu métallique comme ça. Je me reconnaissais à peine là maintenant. Et c'est vrai que le théâtre, par exemple, c'est un outil qui fait que la voix se grandit, se développe et change, quoi, évolue. Comme pour tout le monde d'ailleurs dans la vie. Mais là, je me reconnaissais à peine.
Stanislas Prévin,
qui faisait une enquête, qui faisait complètement manipuler par le personnage que joue Bernadette Lafont. Et Truffaut avait écrit ce film pour Bernadette, avec qui il avait fait son premier court-métrage, s'appelait Les Mistons. Et il y avait Charles Denner, il y avait Léotard, il y avait Brasseur, enfin il y avait j'étais vraiment impressionné.
C'est Truffaut qui vous a volé à la Comédie Française?
Non, il est venu me voir au conservatoire, j'étais au conservatoire, et donc, non, il a tout fait pour avoir Isabelle Adjani, par contre, il est parvenu. Mais, il est venu au conservatoire et c'est grâce à un agent, Serge Rousseau, qui avait joué dans ses films, que j'ai pu dégoter ce rôle alors que j'étais encore jeune apprenti comédien. C'était vraiment une surprise. 2 ans avant, j'allais voir tous les films de Truffaut. Je pensais jamais que j'aurais commencé dans ce métier avec lui.
Truffaut encore, qui avait remarqué que vous vous isoliez après chaque prise. Il disait que vous êtes, je le cite, le seul acteur avec Michel Bouquet qui répète ses scènes même après les avoir tournées. Et apparemment, vous le faites encore, ça. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête?
Un peu moins maintenant. Mais parce que le cinéma, c'est quelque chose qui va très, très vite. On fait une prise, on les enchaîne. Et donc, je comprends. Alors qu'au théâtre, on répète, je sais pas, 2-3 heures de suite, des scènes. Et donc, je comprenais pas qu'il soit si vite satisfait. Et donc, j'allais derrière le décor et je me disais, mais au bout de 3 prises, il arrêtait. Et donc, soit on peut être très paranoïaque et dire, mais il est pas content. Soit on se dit, mais est-ce que j'ai bien fait vraiment ce que je voulais faire? Et il me surprend. Et il me dit, vous êtes le seul acteur avec Michel Bouquet. Mais il dit, non, je suis le premier spectateur de mon film. Si je dis j'arrête, c'est parce que ça me satisfait pleinement. Mais le cinéma, ça va vite, quoi. Évidemment, j'étais pas habitué. J'étais juste un acteur qui venait du théâtre.
Le cinéma, et donc César, ça c'est en 1998, celui du meilleur acteur pour ce film. On connaît la chanson d'Alain René où vous repreniez en playback, entre autres, Vertige de l'amour de Bachung. Alors, c'est un film génial qui a eu le succès que l'on sait, mais qui n'est qu'un moment d'une longue amitié professionnelle avec Alain René. Vous dites qu'il vous a donné à jouer votre premier grand rôle.
Oui, c'était dans Mélo. Et vraiment, c'était le rôle que j'espérais trouver. Et donc, il y avait tout dans ce rôle. Il y avait l'émotion, il y avait la séduction, il y avait l'amitié, l'amour. Enfin, il y avait vraiment plein de sentiments à développer. Et donc, c'était vraiment une belle rencontre, autant pour les rôles qu'il nous offrait. Et c'était un autodidacte, René. Donc, il était vraiment, il n'avait pas d'idées préconçues. Et Bello, c'est Bernstein, c'est un auteur qu'on ne jouait jamais au théâtre. Et donc, il est allé le dénicher. Et puis, là, je suis content que vous fassiez entendre Bachung, parce que on a failli. C'était vraiment, chanter Bachung en garde républicaine sur un cheval, la garde républicaine, c'était quand même un peu osé. Et donc, la garde républicaine avait refusé. Et il a fallu se battre. Et René dit, écoutez, André, on va renoncer. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Et donc, avec sa petite caméra, j'ai dit, mais faites un essai, Alain, vous allez voir. Et donc, sur une chaise, j'ai chanté la chanson de Bachung. Et là, je pense que la conviction l'a emporté. Et donc, on est retourné voir la garde républicaine qui a dit, écoutez, vous avez 2 prises. C'était le 8 mai. Donc, on va aux Champs-Élysées, là-bas, à l'étoile là-bas. Donc, vous faites votre prise à l'aller et vous faites votre prise au retour. Donc, on n'avait pas beaucoup de chance, mais on avait mis toutes les chances de notre côté pour faire ça parce que c'était assez rare.
Mais André Dusselier, vous avez toujours voulu être acteur et pour préparer votre concours d'entrée au conservatoire, j'ai lu quelque part, vous allez me dire si c'est vrai, que vous vous entraîniez en faisant le guide touristique dans des villes que vous n'aviez jamais visitées.
Oui.
Vous pouvez me raconter ça en 2 mots, parce que c'est un sacré exercice, oui, d'impro.
Quand j'étais étudiant à Grenoble, et puis il fallait bien se faire un peu d'argent de poche, donc j'avais repéré en effet qu'une compagnie de car recrutait des guides touristiques, et donc je me suis présenté, j'avais peut-être un peu potassé la veille, mais enfin, j'étais assez vite à sec, parce qu'il fallait aller sillonner toute l'Europe, et donc j'avais pas pu travailler, donc j'étais monté dans le car, j'étais le guide touristique en question, mais au bout d'un moment, j'avais plus qu'à dire, là, vous avez une église à droite, là, je suis à gauche. bouche au champ de blé. Et c'est tout. Mais il y avait une bonne ambiance dans ce car. Et donc, ça me permettait d'arrondir les fins de mois.
Voilà. André Dussolier, je passerai volontiers la journée à vous écouter parler de votre métier. Mais l'heure tourne. Et oui, comme toujours. Dans quelques instants, nous serons rejoints par Charline Roux pour parler de la fiction Juliette dans son bain de Jean-Paul Lilienfeld qui nous permet de vous avoir comme invité aujourd'hui. C'est diffusé, ça, sur Arte. Mais avant cela, je vous propose d'écouter ensemble un morceau de The Dead South. Vous allez voir, ça commence comme du Brassens. Et puis on dirait du George Zamfir. Mais ça part tout à fait ailleurs. In hell, I'll be in good company.
Antoine Decaune, Pop.
Et Charline Roux. Charline dans son bain, voilà le titre d'une toile qui pourrait intéresser bien des collectionneurs et pas que
personne,
Picard.
Personne ne veut voir ça, Antoine.
Mais elle reste à peindre. En attendant, Charline, brossez-nous, s'il vous plaît, le portrait, non pas d'André, mais du film.
Qui est vraiment Ronny Candiotis? Sur le papier, un milliardaire philanthrope qui vient de faire don à la France de deux tableaux intitulés Juliette dans son bain, l'un de Gauguin, l'autre de Munch. Mais dans la réalité, c'est un mécène qui vacille. Sa fille unique et adorée, Lara, vient d'être kidnappée par un mystérieux groupuscule qui exige de lui, en échange de sa liberté à elle, qu'il révèle au grand jour les crimes sur lesquels il aurait bâti sa fortune. Est-il une victime ou un homme machiavélique? Quelle que soit la réponse à cette question, les médias et les réseaux sociaux s'emballent. Vous-même, André Dussolier, vous ne fréquentez pas les réseaux sociaux, c'est accidentel ou délibéré?
C'est un vocabulaire que j'ignore complètement. J'ai l'impression que c'est un boulot énorme. J'ai travaillé avec des jeunes acteurs et je les vois toujours, par exemple, tout d'un coup, après une prise, aller dans une pièce, dans leur loge, et parler à un téléphone pour dire, alors, ça vous dirait que j'aille faire le spectacle, etc. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Donc, j'ai appris que Gaspard Proust, comme ça, remplissait des salles, comme ça, immédiatement Internet. C'est une nouvelle qui fait que je suis encore.
Mais vous êtes sur Instagram, vous-même?
Non.
Non, c'est pas vous.
J'ai été à un moment donné, pendant que je jouais une pièce en effet, mais j'ai arrêté parce qu'il faut alimenter ça tout le temps, quotidiennement, c'est un boulot énorme.
Je suis abonné, je vous suis maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? Non.
Alors, sachez que j'ai ouvert la boîte de Pandore pour vous, hein, que le premier tweet mentionnant votre nom dit, ouvrez les guillemets, il n'y a pas assez d'André Dussolier dans nos vies de merde. Est-ce que ça vous donne envie de vous lancer?
Mais qui a dit ça, pourquoi et comment et à quelle occasion?
Suite à une très belle citation que vous aviez faite sur un plateau télé, en l'occurrence quelques mots de Victor Hugo, que tout le monde a su apprécier. Les gens manifestaient leur plaisir.
Donc. Alors j'ai vu ça. Alors c'est incroyable parce que, en effet, l'occasion m'a été donnée. Mais c'était vraiment en rapport avec Candiotis et la rumeur.
Absolument.
Et donc il y a ce petit poème de Victor Hugo qui s'appelle Le Mot et qui est très moderne, sans que je dise Victor Hugo ni rien, et tout d'un coup c'est apparu être un poème écrit aujourd'hui et tout d'un coup ça fait 2 800 000 vues. Mm-hmm. Je sais même pas ce que ça veut dire, je sais pas à quoi ça correspond, c'est peut-être pas mal.
Ouais, c'est pas mal,
mais en tout cas c'était pas mal de voir aussi que on pouvait que la poésie entre guillemets pouvait toucher et atteindre les gens et leur et plaire.
Juliette dans son bain de Jean-Paul Lilienfeld avec vous, André Dussolier, mais aussi Marisa Berenson, Charlotte Gabris, Bruno Todeschini, Nicolas Bridet, Jean-François Balmer, Agnès Soral, ça ressemble à ça.
La police demande à vous voir.
Je laisse à penser que votre fille a été victime d'un enlèvement.
Papa, je suis pas maltraitée, mais je t'en supplie, fais tout ce qu'ils te demandent, sinon ils...
Ils ont donné ça.
Mais tout est faux.
Archi fou.
Vous enquêtez sur un ravisseur ou sur mon passé?
Les deux, monsieur Condodis.
André Dussolier dans de beaux draps, Juliette dans son bain.
Il est dans de beaux draps, André Dussolier. Réflexion personnelle d'ailleurs, mon cher André. On vous voit beaucoup au lit dans vos derniers films.
Ah,
vous y passiez un certain temps dans le film d'Ozon. Oui.
Ah oui, c'est vrai.
Ah,
enfin,
bah,
dans
oui.
le sale état quand même. Enfin, hein, ou dans le sale drap. On ne peut pas dire que les lits soient... On ne peut pas dire qu'il y a un érotisme qui se
non,
dégage.
Non, pas torride. Pas torride. On vous retrouve à nouveau au pieu dans Juliette dans son bain. C'est contractuel ou quoi?
Non, pas du tout. C'est le hasard. Moi, j'avais l'impression que je jouais des rôles qui étaient en fin de vie. Alors, c'était absolument déprimant. J'ai dit, ça suffit. Non,
alors, pour en définir la tonalité, est-ce que vous diriez que Juliette dans son bain est un polar ou un conte philosophique critique sur les réseaux et ce qu'on appelle le tribunal populaire?
Je ne pense pas que ce soit un conte, non, je ne suis pas moral, c'est un polar, en effet. C'est tiré d'un livre de Metin Arditi, qui est un homme qui est devenu un écrivain, mais qui était un homme d'affaires avant, et donc qui connaît un peu tout cet univers. Et là, il s'est amusé à faire intervenir la réputation d'un homme riche, donc soupçonnable. On se dit, mais sur quoi il a... Et ce qui est diabolique dans ce film-là, c'est la manière de le faire avouer des choses. On ne sait pas si c'est vrai, c'est pas vrai. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est terrible. On le voit bien encore aujourd'hui, tout le temps. Les gens sont condamnés avant d'être jugés. Mm-hmm. Et donc, ça raconte en filigrane, quoi.
Et quel regard portez-vous, André Dussolier, sur ces fameux tribunaux sociaux? Je fais un raccourci, hein, comme ça, on gagne du temps.
Alors, je sais pas. Il y a deux points de vue parce qu'Elon Musk, il a racheté Twitter. Je suis un tout petit peu. Mais alors. Et on n'a pas encore instauré la signature obligatoire des tweets, non?
Donc, non, pas encore, non.
Et on dit au contraire qu'il faut pas l'instaurer puisque ça permettra à la parole d'être libérée et de tout dire. Mais sauf que ça atteint des proportions démentes et c'est là qu'on regrette quand même qu'il n'y ait pas une responsabilité de ceux qui disent les choses. Pourquoi pas? J'aimerais bien, moi, ça me manque. Et je trouve que c'est trop dangereux. Quand il y a ça frise, on bascule dans un monde... c'est celui qui est accusé qui doit se défendre. Hein, à l'inverse de... Là, je vois dans la dernière affaire politique là qu'on connaît, même la personne qui porte plainte ne s'identifie pas, ne dit pas qui elle est.
Ouais, ouais.
Enfin, je parle de l'affaire Abad.
Ouais.
Donc, il y a quelque chose qui va pas, quoi.
Au début du film, on voit en tableau deux représentations de la même femme dans son bain, la fameuse Juliette, par Munch et par Gauguin. Deux visions différentes de vérité. Votre réalisateur, Jean-Paul Lilienfeld, parle de la vérité comme d'une donnée, je cite, « mouvante et polymorphe ». Est-ce que c'est un avis que vous partagez ?
Oui, la vérité, c'est impossible à connaître. On voit bien, justement, à la faveur de ces débats, je suis à la télévision, tout ce qu'on peut dire de ce qui s'est passé, parce que maintenant, en effet, quand il y a une annonce qui est faite sur les relations intimes d'un couple ou de la manière dont quelqu'un est accusé, pour découvrir la vérité, ce qui s'est vraiment passé, c'est quasiment impossible, quoi. La vérité, il y a une pièce de Pirandello qui s'appelle « Chacun sa vérité » et j'invite tout le monde à la lire et c'est magnifique.
Votre personnage dans ce film insiste d'ailleurs sur les doubles autoportraits célèbres de l'histoire de la peinture dans lesquels les peintres se montrent sous différents visages. C'est le point commun, ça, entre les peintres et les comédiens ?
Oui, là c'était pour dire qu'en effet on peut apparaître différemment et qu'un peintre, c'est pas parce qu'il sait pas peindre le même portrait, mais c'est que la vérité lui apparaît un peu différente à chaque fois. Et nous, d'une prise à l'autre, la vérité peut être différente aussi. Et ça qui est bien, c'est de se servir un peu. La vie, c'est toujours différent, quoi. C'est toujours inattendu. C'est ça qu'on essaye de capter ou de créer ou de recréer. Et c'est ça qui est passionnant, quoi.
C'est l'histoire d'un homme qui chute de très haut, un homme que tout le monde ou presque a envie de voir tomber de son piédestal, puisqu'il n'est guère sympathique, il faut bien le dire.
Ouais.
C'est quand il est très puissant qu'il se montre calme, posé, et c'est dans l'adversité qu'il se fait de plus en plus cinglant, de plus en plus incorrect. Est-ce que c'était un plaisir de comédien que de le faire exploser et sortir de ses gonds?
Ah oui, énormément. Parce que moi j'ai toujours un peu joué des finables, des hommes raisonnables, des hommes qui contrôlent leurs sentiments et leurs attitudes. Et donc là, tout d'un coup, cet homme qui est au pied du mur est obligé de se défendre avec véhémence, même au sein de sa propre famille qui doute un peu de la vérité, de ce qui se passe, de ce dont on l'accuse, et donc il est obligé face au monde entier, face à sa famille, de l'intime jusqu'à l'universel, de clamer son innocence ou de dire en tout cas sa vérité. On va découvrir, le spectateur suit ça comme un thriller, mais il y a des rebondissements sans arrêt, et donc c'était vraiment une joie en effet d'être en colère.
Parce qu'on vous demande souvent d'être calme au contraire.
Ah oui, par exemple, je suis né dans une région très sportive, les Alpes, Annecy, etc. Donc, je pratiquais beaucoup le sport. Et je comprenais pas pourquoi on me donnait pas des rôles un peu plus actifs, aller de la chaise au canapé. C'était pas vraiment tout ce dont je rêvais. Moi qui faisais beaucoup de sport, de ski, de vélo. Et donc, mais voilà, on est tributaire du physique, de l'allure, de l'impression que les gens ont en nous regardant et en nous voyant, oui.
Ah voilà, André Duchelier qui explose.
Mais cela dit, Antoine, j'aime bien moi faire le grand écart, donc ça m'est arrivé et je me prive pas. Et vous parliez de Christian Eck là tout à l'heure, qui a fait la mise en scène du Bourgeois. J'ai joué avec lui et je jouais Clémenceau. Donc ouais. Clémenceau, j'ai pas vraiment de rapport de ressemblance. Et c'est un film qui va sortir plus tard. Mais donc j'aime bien les choses tout à fait différentes, un peu comme les acteurs américains qui se métamorphosent d'un rôle à l'autre.
André Duchelier, on va continuer à parler de cette fiction Juliette dans son bain dans un instant, mais je vois qu'il est 16h30. 32, ça veut dire que ça, c'est l'heure des pop news.
Cette petite ambiance sonore pour souligner ce que les fans savent déjà. Ce vendredi arrive sur Netflix la saison 4 du phénomène Stranger Things, une série nostalgico-flippante, très addictive. Le petit gang des gamins Dawkins revient et avec elle, on imagine son lot de créatures et de phénomènes paranormaux. Et comme on ne recule devant rien pour vous faire plaisir, voici une petite salve de news spéciale puisque nous sommes allés rencontrer Noah Schnapp, l'interprète de Will Byers, l'enfant victime de l'Upside Down World. La petite troupe a bien grandi, lui aussi, on en a profité pour lui demander la tonalité de cette nouvelle partie.
Chaque saison, je me dis qu'ils ne pourront pas faire plus effrayant et ils y arrivent. Et cette saison le prouve vraiment. C'est tellement effrayant que j'ai dû détourner le regard à certains moments. C'est fou. Tenez-vous prêts.
Être prêt à avoir peur sans rien spoiler de l'intrigue, c'est un excellent conseil, c'est moi qui vous le dis.
Au début de cette nouvelle saison, le petit groupe est scindé en deux. Une partie toujours à Hawkins, ville dont on se demande si elle n'est pas maudite. L'autre en Californie, et c'est le cas de Will, interprété par Noah Schnapp, qui cette fois est confronté à un autre genre de monstre, des lycéens.
J'ai tellement eu l'habitude de jouer un Will qui affronte les monstres et toutes les choses effrayantes que c'était totalement nouveau pour moi de l'incarner au lycée, affrontant des problèmes de la vie quotidienne. C'était amusant à jouer aussi. Cette saison, Will est une sorte de grand frère protecteur d'Eleven. C'était cool. En plus, j'ai une sœur jumelle, donc je pouvais vraiment me servir de ça et penser Eleven comme ma jumelle.
un Will qui cette fois protège Eleven, Millie Bobby Brown, et c'est la situation de départ de cette saison.
18,2 millions de personnes ont regardé la saison 3 en streaming au cours de ses 4 premiers jours en ligne. Avec un grand pouvoir vient forcément une grande responsabilité. Noah Schnapp ressent-il une sorte de pression avec cette nouvelle saison ?
Ouais, sans aucun doute. Je pense qu'il y a toujours une grosse pression sur Stranger Things, surtout venant des spectateurs qui l'attendent avec impatience, qui supplient « on la veut maintenant » et qui demandent « quand est-ce que sortira la prochaine saison ?» On a eu le Covid, donc ça a pris du temps, mais il y a beaucoup de choses dedans. C'est une saison très longue, donc je crois que les spectateurs seront heureux.
Et Stranger Things, saison 4, avec Noah Schnapp et toute la bande, réalisée par les frères Duffer, ce sera en ligne ce vendredi. Et lundi, le temps que vous ayez pu avancer un peu dans la série, une autre salve de news avec Noah Schnapp dans Pop Pop Pop.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Gaulle.
Yeah, I'm not me.
Alors, c'est une version très adulte de Noah Schnapp.
Noah
pour
Schnapps.
Le coup. Non,
bon.
Schnapp, pas Schnapp.
Merci.
Un enfant, pas un alcool.
Nous sommes de retour avec André Dussolier pour parler de Juliette dans son bain. C'est le titre de cette fiction de Jean-Paul Lilienfeld, co-scénarisée par Gilles Torrent sur Arte TV. Alors, votre personnage de Ronnie Candiotis, qui prend un... C'est pas un méchant. C'est un type ambigu, sombre, un peu salaud sur les bords, mais dans le sens où l'entendait Jean-Paul Sartre, dont je sais qu'il a été une référence pour vous.
Ah oui, c'est vrai. Moi qui étais dans le déterminisme familial, social, géographique, d'un coup Sartre, que j'ai découvert quand j'étais en philo, disait, mais non, les déterminismes, ça n'existe pas, un homme peut faire ce qu'il veut de sa vie, etc., etc. C'était une philosophie à laquelle j'ai adhéré, j'étais content, c'était comme une libération. Et voilà, pourquoi on parlait de Sartre, parce que
à propos des personnages méchants
et de leur ambiguïté.
Ah bah oui, bien sûr. Alors là le théâtre, c'était vraiment la possibilité, une grande porte ouverte sur toutes les libertés d'interpréter, d'être, d'exister autrement que ce qu'on est ou que cette vie que j'avais l'impression d'être un petit peu cadenassée, quoi, c'est sûr.
Jean-Paul Lilienfeld, votre réalisateur, avait en tête des figures comme François Pinault ou Bernard Arnault pour Candiotis, et vous, à qui est-ce que vous avez pensé?
Oui, on pense toujours à eux, évidemment, puisqu'en plus c'est des grands
amateurs
d'art.
Flatteur pour...
Non, il faut dire que le personnage, on ne peut pas révéler la fin, mais enfin, il n'est pas forcément, on lui prête
on
des...
Ne sait pas.
Des
mmh.
On ne sait pas. On lui prête, en effet, c'est toujours un peu étrange, on ne sait pas où est la vérité, et ça va être une grande bataille, mais quand on a de l'argent, ben, on ne sait pas comment, sur quoi est fondée cette fortune, et comment ça s'est fait, quelles ont été les étapes qu'ils ont dû franchir. Alors non, mais la simple ressemblance, c'est par l'amour de l'art, quoi. Et on a l'impression, en effet, que ces hommes qui sont un peu isolés, y compris au sein de leur famille, ils ont un vrai rapport tout d'un coup avec la culture. La pop culture ou la culture élitiste, la culture, tout d'un coup, c'est une vérité qui a un dialogue qu'ils ont avec un tableau ou avec un peintre.
Mais ça donne aussi l'impression que cet art-là dont on parle, il pourrait avoir comme fonction pour ces hommes-là de compenser la violence dont il a fallu faire preuve pour arriver au sommet. Vous pensez que l'art a aussi ce pouvoir ?
Oui, complètement. Moi, je pense, ça m'avait frappé quand même. La première pièce que j'ai vue, j'avais 10 ans, c'était dans une salle de théâtre, ça s'appelait Paul Poil de Carotte, et vraiment, ça racontait, j'étais dans un petit village, raconter la vie du village, quoi, vraiment, telle qu'on la connaissait. Alors que dans la réalité, c'était extrêmement tendu. Là, tout d'un coup, j'étais surpris de voir des acteurs en scène qui disaient des choses qu'on ne pouvait pas dire à la maison, et des gens dans la salle qui riaient et applaudissaient, là où dans la même maison, ils n'auraient absolument pas ri. Donc, du coup, il y a une faculté de libération et on monte les étages grâce à l'art, quoi.
Ce Candiotis est un homme qui évolue dans un monde très particulier, celui des gens très fortunés, à la fois entouré d'une garde rapprochée, mais aussi très très seul, parce que si proche soit la garde, elle est quand même redoutablement faillible. Sa femme, son avocat, son personnel, le réalisateur d'un documentaire qui lui est consacré, tous sont aussi troubles que lui. Comment avez-vous établi ces rapports particuliers avec vos partenaires, en commençant par votre très libre épouse, incarnée par Marisa Berenson?
Il y avait en effet, grâce à Gilles Torrent et Jean-Paul Lilienfeld, il y avait un ton très libre, qu'a ce milliardaire qui ne s'embarrasse de rien, qui dit les choses telles qu'il les pense, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. Voilà, donc ça c'est tout à fait agréable, y compris avec la personne qui... Le valet qui est... Pas le valet, comment dire. Le majordome, pardon. Ouais. Qui, je prends des airs de Candiotis sans le vouloir.
Sans le vouloir.
Mais, Mais non, il a un ton, en effet, qui le rend pas sympathique au départ, qui fait que ça accentue les soupçons qu'on peut avoir sur sa personnalité. Mais c'est agréable de pouvoir dire les choses comme ça qu'on ne dirait pas. Il n'y a pas de contrôle. Et donc non, j'ai... quand on joue un personnage, on a toutes les clés. On sait comment il va finir. Donc on peut jouer aussi en se disant bon ben les gens qui verront le film, si ça arrive une deuxième fois, ils pourront comprendre un petit peu dans les silences, dans les moments comme ça, qui il est vraiment.
Parce que les gens autour sont pas plus sympathiques, hein, faut quand même bien le dire.
Ben, les milieux aisés comme ça, riches, enfin je sais pas, ça génère pas forcément une grande générosité. C'est curieux, chacun est sur son compte à soi.
Alors Marisa Berenson, qui a d'ailleurs cette réplique délicieuse dans le film qui illustre bien son état d'esprit, elle dit tout est vrai dans cette maison, à part mes seins, bien sûr. Tout assumé de soi et de son corps à l'écran, ça devient une rareté dans le monde contemporain.
Très très rare, Michel. C'est vrai. Non, il s'autorise des choses, et puis elle avait l'humour de pouvoir dire des choses comme ça pour concernant son personnage. Ce qui j'aime bien ça. On parlait de la télévision. C'est ça que par rapport au cinéma, je trouve qu'elle a grandi énormément, la télévision. On aborde des domaines où on creuse en profondeur et où on s'autorise à dire les choses comme de façon moins convenue.
Jean-Paul Lilienfeld, toujours, explique faire des lectures individuelles préalables au tournage, mais ne pas diriger les comédiens pendant les scènes. Est-ce que ça aide parfois à jouer la sidération de votre personnage, et est-ce que vous êtes vous-même laissé surprendre parfois par vos partenaires?
Ah oui, moi j'adore ça, être surpris, me surprendre et être... J'aime bien travailler avant. J'aime bien savoir un peu, mais je sais qu'au moment du tournage, je vais avoir des partenaires qui vont pas forcément m'envoyer la réplique ou comme je l'imagine. Et puis le metteur en scène qui va provoquer un accident ou un déplacement auquel je m'attendais pas à ce moment-là de la scène. Donc tout ça, il faut jouer avec, et ça crée, ça accentue la vie, quoi. Ça lui donne une intensité qu'on ne peut pas avoir quand on répète chez soi.
André Dussollier, Jean-Paul Lilienfeld, c'est bien entendu le réalisateur de La Journée de la Jupe, hein, en 2008, avec Isabelle Adjani, dont le succès à la fois en salle et critique avait mis en avant sa façon assez particulière de raconter des histoires. Vous aviez vu, aimé La Journée de la Jupe?
Beaucoup aimé. C'était intense, oui, parce que c'était un sujet extrêmement actuel, qui le reste toujours d'ailleurs, et qui là où Isabelle d'ailleurs Adjani était magnifique, et les acteurs qui l'entouraient aussi, tout le monde était tout à fait en accord avec le rôle qu'il jouait. C'était très intense et très fort.
En regardant le film, on réalise, ou on re-réalise en l'occurrence, qu'il est très facile de projeter des choses négatives sur un homme public. Antoine le rappelait en ouverture de l'émission, il n'est pas né, celui qui va dire du mal d'André Dussollier. Est-ce que c'est parfois une source d'angoisse, ou est-ce que c'est vraiment le cadet de vos soucis?
Non, c'est pas le cadet de mes soucis, parce qu'on est toujours, quand on est acteur, on a envie de plaire, mais à travers des rôles. Là, personnellement, on peut pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Et voilà, c'est comme ça dans la vie. J'ai mes défauts, mes manières d'être, qui font que ça ne peut pas forcément fonctionner tout le temps et avec tout le monde. Mais voilà, je sais pas. On peut pas passer sa vie en essayant de se rassurer, quoi. Il vaut mieux être soi-même et être le plus proche de soi, quoi. Oui, possible.
André Dussollier, on ne connaît pas vos défauts, on ne connaît que vos qualités. Je rappelle que Juliette dans son bain, de Jean-Paul Lilienfeld, avec vous-même et Marisa Berenson, entre autres, c'est sur Arte TV pendant 3 mois, et c'est à ne pas manquer. Vous restez avec nous, André, car dans un instant, nous allons examiner vos recommandations en matière de pop culture. Ce sera votre pop list, mais tout de suite, je vous propose d'écouter ensemble Sea Carter. C'est un morceau de Corday.
Yeah. Ladies and gentlemen, boys and girls. I need y'all to just rock with me. Yeah, I used to dream about a Dodge Charger. Suicide though, sitting on 24s. I was trying to find a job and shit, why bother? Being broken, make you try harder. Sitting in the house watching Coach Carter. Plotting on this fucking Cartier. Hey, plus a nigga trying to go farther. I finally arrived and nobody's here. Hey, I used to dream about a new Hummer. Back when good music dropped Cruel Summer. Back when niggas wondered if I do numbers. Check the stats, boy, a nigga doing huge numbers. Got this dime piece sucking on my cucumber. I ain't doing too bad for a newcomer. This life shit gave me scars with a bruise under. Certain shit don't make you wonder. But that's a part of the game. We call life, love is hard to attain. My little
little brother drive a Jeep and I just bought him a chain. A real nigga, what I'm is and what I always remain. But this bitch temptation keep calling my name. I wrote this song in LA, I was driving my Benz. Thinking about this road I'm on to acquire ends. I'm a fucking outlier, I retire these trends. Niggas told me I was stupid just for hiring friends. I used to dream about a Dodge Charger. Suicide though, sitting on 24s. I was trying to find a job and shit, why bother? Being broken, make you try harder. Sitting in the house watching Coach Carter. Plotting on this fucking Cartier. Hey, plus a nigga trying to go farther. I finally arrived and nobody's here. Okay, listen to these proverbs, the odd words we call rap music. That took me all across the globe, watch people react to it. Figments of imagination, couldn't fathom elation. Indescribable with words, so I'll go illustrate it. Illustrious rhyming career for which my rhymes are revered. Clear signs of alignment, shows my timing is near. We all here for an assignment, several souls that are migrant. Simply vessels in this climate, solitary confinement. I break free every time that I wake. My faith leads and creates seeds that eventually blossoms of trees. Getting rid of all the extra shit I thought I would need. I put your head on the swivel, wear my heart on the sleeve. But just breathe, this simple exercise can even rectify our greatest sins. Although my days won't end next to God, I atone for all of my wrongs through our songs. But let him who is without sin go cast the first stone. I used to dream about a Dodge Charger. Suicide though, sitting on 24s. I was trying to find a job, shit, why bother? Being broken, make you try harder. Sitting in the house watching Coach Carter. Plotting on this fucking Cartier. Hey, plus a nigga trying to go farther. I finally arrived and nobody's here. Yeah, 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 yeah.
Et vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... L'ouverture de Help des Beatles, et ça, c'est le son qui représente le mieux la pop culture à vos yeux, André Dussolier.
Je sais pas pourquoi, hein, j'ai associé la pop culture à Beatles, oui, Yesterday, tout ça, c'était vraiment, c'était agréable, c'était mélodieux, c'était la nouveauté, la manière de vivre aussi, la manière d'être, oui, je sais pas, c'était une révolution.
Quoi. Mais une chanson de détresse, hein, c'est John Lennon qui dit, aidez-moi,
oui,
aidez-moi, je m'appuie.
C'est vrai, ouais. C'est vrai. Oui, c'est un peu... mais oui, mais je sais pas, c'est eux qui représentent un peu à travers, peut-être c'est pas la chanson vraiment, mais c'est leur parcours. Quoi.
Bien, ben c'est avec les Beatles donc que débute votre pop list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série que vous appréciez en ce moment. Le livre que vous avez choisi, c'est Un homme de Philippe Roth, une sorte de testament, Charline.
En quelque sorte, oui, puisque ce roman s'ouvre sur l'enterrement de l'homme du titre et Philippe Roth de revenir sur son enfance, ses mariages, ses ratages et les différents accidents de sa vie.
Alors, de tous les romans de Roth, c'est pas le plus léger, hein, on va dire. Mais pourquoi vous plaît-il à ce point
celui-là? Alors, je suis presque à la fin, mais c'est le bilan d'une vie, mais il a une manière d'écrire qui est tellement simple et vraie et que les choses les plus simples sont très émouvantes, quoi, voilà. Mmh. Donc, il ne fait pas d'effet, quoi. C'est peut-être ça qui me plaît beaucoup à chaque fois chez cet auteur. Et voilà, mais il n'y a rien de spectaculaire, quoi. Mmh. Sinon, simplement, ça commence par la fin, en effet, et puis après, il remonte dans sa vie, et c'est lié aussi à la fragilité, quoi, de la vie, et du corps aussi. Mmh. Et, bon, voilà, j'aime beaucoup cet auteur et la manière d'écrire.
Écriture magnifique et magnifiquement traduite. Il faut le souligner quand même à chaque fois. Le film que vous avez choisi, André, c'est À plein temps d'Éric Gravel avec Laure Calamy. C'est un thriller du quotidien, Charline, c'est ça?
Une course contre la montre, celle entamée par Julie qui se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne et garder son travail dans un palace parisien. Et quand elle obtient enfin un entretien pour un poste qui correspond à ses aspirations, une grève générale éclate, paralysant les transports.
Maman?
Ouais.
Tu connais le jardin d'acclimatation?
Ouais.
On pourra y aller un jour?
Écoute, on verra.
J'ai un entretien.
Pour un boulot?
Genre, un bon boulot?
Un super bon boulot.
Tu joues avec le feu, Julie.
Et avec les retards en plus, ça arrange rien.
Vous pourriez trouver une autre solution pour les soirées, ça commence à devenir difficile.
Je vais te laisser mon badge et tu vas le valider en même temps que le tien.
Mais ça, je suis pas sûre.
Jeanne Delacroix.
Julie Roy.
Enchantée.
Merci de vous être déplacée malgré les grèves. Ça vous inquiète pas de reprendre le travail après une aussi longue pause?
Ah non.
La bande-annonce de À plein temps d'Éric Gravel, le film que vous avez choisi, André Dussolier. Votre peupliste, pourquoi ce film-là?
J'ai voulu aller voir parce que j'ai juste vu une phrase qui disait « C'est le quotidien qui est le scénariste du film ». Alors ça m'intriguait un petit peu et j'ai pas été déçu parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'effet particulier. Cette femme, elle travaille du matin jusqu'au soir. Il y a des grèves en effet qui font que la vie est infernale. Et on voit comment le quotidien peut la pousser à bout et la mettre... Alors, c'est pas une surprise, mais c'est fait de façon si subtile par Éric Gravel, que je connais pas, qui est un metteur en scène, je crois, canadien, et qui avait fait un film auparavant, mais que je n'ai pas vu. Mais j'ai trouvé que c'était subtil, grâce aussi à l'interprétation de tous les acteurs et actrices, et en particulier leur académie, qui a le rôle principal là-dedans. Mais c'est, voilà, c'est le quotidien de la vie qu'on a tous, ou qu'on peut connaître, ou qu'on peut deviner. Enfin, elle, c'est un peu particulier, étant banlieue, elle a un travail de fou, et on pense qu'elle va en finir avec la vie, tellement cette vie est insupportable. Mais c'est juste, il n'y a pas d'effet extraordinaire, artificiel. Voilà, j'aime bien quand... J'avais été frappé, par exemple, un film américain qui s'appelle Shame, qui était l'addiction d'un homme au sexe.
Michael Fassbender.
Voilà, exactement. Et c'était la psychologie qui était vraiment le moteur de l'écriture, quoi. C'était pas, il n'y a pas tout d'un coup des événements qu'un scénariste aurait inventé dans sa chambre. C'est la personnalité, comme dans Shame, ou bien la vie quotidienne qui agit sur quelqu'un qui fait que ça devient un film haletant et à suspense très fort.
J'ai l'impression que vous insistez beaucoup, à la fois pour la littérature et pour le cinéma, sur l'absence d'effet.
Oui. Oui, mais j'aime beaucoup ça. Et dans mon métier aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'aime bien... Oui, que les choses soient surprenantes comme ça, comme la vie peut l'être. Et donc, il y a une phrase que j'entends souvent dans mon métier. Ça demande beaucoup de travail dans mon métier quelquefois, mais c'est bien quand on voit pas les coutures.
Ouais, ouais.
Donc, c'est un peu pour tout le monde, pareil, j'imagine, dans tous les métiers. Mais il y a aussi une très jolie phrase de quelqu'un qui a voulu écrire un article et qui a dit j'aurais voulu faire plus court, mais j'ai pas eu le temps. c'est des formules qui racontent à la fois l'effort. Et à la fois la simplicité vers laquelle on tend.
À propos d'absence d'effet, restons dans l'absence d'effet avec votre choix de série, André Dussolier, c'est le désormais célèbre En Thérapie, dont la nouvelle saison est diffusée sur Arte, avec entre autres Frédéric Pierrot, évidemment, dans le rôle du psy. Charline, pour les extraterrestres qui viennent de débarquer, voulez-vous bien nous dire de quoi il s'agit?
Alors, pour les rendez-vous, les consultations se déroulent dans le cabinet du docteur Dayan. Dans la première saison, ses patients faisaient face pour la plupart au traumatisme des attentats. Dans la saison 2, il doit gérer, entre autres dramas, les effets du confinement. Écoutez-le parler. Philippe Dayan est non seulement un excellent psy, mais aussi un potentiel gagnant de The Voice. Ça va vous apaiser.
Quand on a su pour le confinement, mes parents m'ont proposé de venir chez eux. Je leur ai dit que j'étais cas contact et j'avais peur de les contaminer.
Je trouve ça quand même bizarre de donner de l'argent à quelqu'un qu'on connaît pas juste pour parler avec lui.
Vous voulez pas plutôt me poser des questions parce que j'ai l'impression de vous raconter n'importe quoi là.
Votre prix sera le mien. J'ai besoin de vous dans mon équipe.
J'ai jamais fait de supervision, mais je suis pas sûre d'être la personne qu'il vous faut.
Je finis par m'observer devant mes patients, à m'écouter. J'en ai marre, moi, de tout ça. Vous comprenez?
Ce qui s'est passé dans votre bureau il y a 23 ans, c'est pas le genre de choses qu'on oublie.
Racontez-moi.
Quoi? Que vous m'avez poussé à avorter?
Alors, c'est l'absence d'effet, c'est la voix de Pierrot qui vous fait cet effet-là.
Je connais cette série depuis sa naissance, depuis Betty Pool, parce que c'est été écrit par Guy Levy, un auteur israélien, puis c'est devenu In Treatment, repris par les Américains, puis là maintenant en France, avec le succès qu'on voit. Ouais. Là, c'est une plongée dans la vérité profonde, c'est parce que la vérité n'a pas besoin en effet d'effet.
Mais il y a quelque chose de commun d'ailleurs entre le personnage incarné par Jacques Weber dans la saison 2 et Candiotis dans
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et disons-le tout de suite, André Dussolier postule, il veut jouer dans des séries, s'il y a une saison 3 dans Thérapie... André est partant pour toutes les séries qu'on lui proposera.
Non, c'est vrai. Non. C'est une série, c'est une possibilité de creuser comme ça un domaine particulier. Et puis c'est écrit maintenant de façon très intense, très riche, par des journalistes qui connaissent bien les sujets, et ensuite repris par des scénaristes qui mettent tout ça en forme de façon vraiment très réussie.
André Dussolier, pour finir, votre choix musical, c'est l'enfer. Enfin, je veux dire, c'est l'enfer. La chanson de Stromae. Vous êtes sensible au génie de Stromae.
Oui, et puis son parcours aussi, peut-être bien, je sais pas. Mais j'aime bien aussi, j'ai vu le clip, alors je suis influencé par l'image aussi, et sa manière d'être acteur aussi de ses chansons. Donc, et puis voilà, je sais pas tout, je suis un peu comment dire, un amateur de chansons que j'écoute comme ça au fil des jours, mais je suis sensible à son, à ce qu'il a connu, quoi, et à cette chanson qui arrive là maintenant, sur qui il est, où il exprime sa solitude.
Eh bien, merci André, grâce à vous, nous vous réécoutons du Stromae aujourd'hui, L'Enfer, dans Pop Pop Pop.
Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui nous font vivre un enfer, ces pensées qui nous font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité, mais faut bien se changer les idées, pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête, et c'est trop tard pour que ça s'arrête, c'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.
L'enfer, qui est paradoxalement un petit bout de paradis. Voilà, et ça c'était le choix d'André Dussolier, notre invité aujourd'hui. Merci André.
Merci Antoine.
De nous avoir fait l'honneur de votre visite. Je rappelle que Juliette dans son bain, cette fiction de Jean-Paul Lilienfeld, c'est à voir pendant 3 mois sur Arte TV. Merci Charlie.
Mais merci à vous.
Et merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Alexandre Chenet qui était à la technique aujourd'hui. Demain dans l'émission, Olivier Bourdeau vient nous parler de son roman Florida. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets. 3615 pop pop pop.